Salut les voisins, l'émission qui va suivre est une rediffusion, restez à l'écoute.
7 milliards de voisins, avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui je vous propose un tour du monde de l'éducation privée. L'école privée qui génère des bénéfices gagne du terrain partout dans le monde et attire les fonds d'investissement. Royaume-Uni, Suède, États-Unis, Chili, Inde, encore Côte d'Ivoire, des exemples parmi tant d'autres. Il faudrait aussi citer le cas le plus emblématique, Haïti, le système le plus privatisé au monde. Alors quelles sont les différences d'un pays à l'autre ? Et surtout, quelles sont les conséquences de cette marchandisation de l'éducation ? L'école privée est-elle un gage de qualité, de meilleure gestion ou au contraire de fragilisation des familles, de division dans la société ? Nous allons en discuter avec vous, Xavier Ponce. Bonjour.
Bonjour Emmanuel Bastide, bonjour à tous.
Vous êtes maître de conférence en sciences de l'éducation à l'Université Paris-Est Créteil. Vous avez coordonné la revue internationale d'éducation qui est consacrée justement aux privatisations de l'éducation. Une enquête passionnante, largement à charge aussi contre le secteur privé. Également avec nous, la journaliste indépendante chilienne Paola Martinez Infante. Bonjour Paola.
Bonjour Emmanuel.
Vous connaissez concrètement le système éducatif chilien.
Tout
vous avez
fait.
Été à l'école au
Tout
Chili.
Tout à fait, j'étais à l'école.
Également avec nous au téléphone, Zamblé Théodore Gouimbi. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes en Côte d'Ivoire, enseignant-chercheur à l'université de Korogo et vous publiez avec un autre auteur également universitaire un très bon article sur la Côte d'Ivoire qui est paru donc dans la revue internationale d'éducation qui a donné la parole à plusieurs universitaires sur plusieurs pays. Nous serons également en ligne avec Didier Akwete qui est le président du cabinet de conseil Afrique Search. Il s'intéresse de très près à ces questions-là. Il partagera son point de vue sur un nécessaire partenariat public-privé avec des propositions inspirées par d'autres secteurs marchands. Évidemment, vos réactions m'intéressent par rapport à ce qu'il nous dira. Et en fin d'émission, un tout autre sujet, mais toujours dans le domaine de l'éducation, le psychologue Ibrahima Giroud nous dira comment enseigner la patience aux enfants. Et je vous rappelle notre numéro WhatsApp si vous voulez participer au débat, 33 7 64 45 51 41. On a reçu énormément de commentaires sur nos réseaux sociaux, sur la privatisation de l'école, notamment des messages sur WhatsApp et qui concernent beaucoup le continent africain. Mariama est à Tawa, au Niger. Ici au Niger, nous dit Mariama, même les enseignants du public envoient leurs enfants dans les écoles privées. Un message de Babacar à Dakar qui pose cette question embarrassante. Combien de membres du gouvernement au Sénégal ont leurs enfants dans une école public, les voisins, si vous avez la réponse, appelez-nous. Iba, à Nouakchott, en Mauritanie. Ici, les écoles privées très chères sont fréquentées par les enfants des politiciens et des familles aisées. Ce sont de bonnes écoles. Les enfants des quartiers pauvres vont dans des écoles publiques ou des écoles privées qui ne sont même pas contrôlées par l'État. Le gouvernement doit aussi penser à l'avenir de ses enfants. Ousmane est à Ségou, au Mali. Mes enfants sont inscrits dans une école privée parce que l'enseignement public ne vaut plus rien. Mais il y a aussi des écoles privées dont le fonctionnement laisse à désirer. L'État doit s'occuper de l'éducation afin que l'égalité des chances soit une réalité pour tous les enfants de la République. Et puis il y a aussi ce commentaire de Josué qui est à Kinshasa. Certains de mes frères et sœurs ont étudié dans le privé, comme le public. Je ne sais pas vraiment dire si oui ou non les écoles privées sont meilleures. Et puis un message audio également posté par un parent. On l'écoute.
Oui, c'est Patrick Kamuko en RDC. Sur le continent africain, nous préférons surtout envoyer nos enfants dans des écoles privées où ils sont très bien encadrés, quand bien même c'est nous qui payons les frais scolaires. Et nous voulons que l'État puisse commencer à financer donc ces écoles qui répondent aux normes pour les prendre en charge. Nous ne voulons pas les envoyer donc dans des écoles publiques parce que là aussi, avec la gratuité qui est lancée, vous retrouvez dans une salle de classe plus de 70 élèves et ça ne permet pas aux enfants de bien assimiler la matière. Voilà pourquoi nous préférons les envoyer dans des écoles privées.
7 milliards de voisins. Parce que nous sommes tous des voisins.
Voilà, vous pouvez continuer à poster des messages au 33 7 64 45 51 41. Xavier Ponce, vous avez coordonné donc cette revue internationale d'éducation consacrée aux privatisations de l'éducation. Ces messages que j'ai lus, qu'on a entendus, pourraient venir d'autres continents, d'autres pays que ceux qu'on a cités en Afrique ?
Ah oui, tout à fait. Il faut bien avoir conscience que ce mouvement de privatisation est une véritable lame de fond qui touche beaucoup de systèmes scolaires dans le monde. Vous avez évoqué en introduction des pays, alors non pas situés en Afrique, mais par exemple occidentaux. Il faut savoir par exemple qu'en Angleterre, la proportion des élèves qui sont scolarisés dans des établissements qu'on appelle des académies, c'est-à-dire des établissements qui sont gérés par des trusts de compagnies privées, est passé de 6% en 2010 à 75% en 2019. En Suède, par exemple, les municipalités locales, elles ont dépensé en 2015 près de 4 milliards d'euros en dépenses d'éducation. Donc c'est vraiment quelque chose qui touche l'ensemble des pays. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si, pour reprendre les propos de Mariama, des enseignants eux-mêmes envoient leurs enfants dans les établissements privés puisqu'ils sont de plus en plus nombreux.
Il y a également le cas de l'Inde, emblématique, parce que immense pays.
Ah oui, tout à fait. Dans la revue, un article est consacré à ce pays et il nous apprend que le nombre d'inscriptions dans les établissements privés a augmenté de 15 millions en 8 ans, soit près de une hausse de près de 47%. Donc c'est quelque chose de tout à fait massif.
Oui, alors on pourrait se dire que c'est l'augmentation démographique, mais non, parce que dans le même temps, les établissements publics, là on parle de l'école primaire, secondaire, se vident.
Oui, tout à fait.
C'est un mouvement qui s'est vraiment accéléré, quoi, ces 20 dernières années ?
Oui, avec la mise en place de nombreuses politiques qui visent à favoriser cela, et ce, de différentes manières.
Zamblé Théodore Gouimbi, vous avez entendu les messages d'auditeurs que j'ai lus. On n'avait pas de messages concernant la Côte d'Ivoire, mais vous reconnaissez la situation de la Côte d'Ivoire dans ce que j'ai lu de nos auditeurs du continent africain ?
Oui, ce qui est frappant, c'est que la plupart de nos auditeurs sont issus des pays francophones, donc ont hérité du même système éducatif de la métropole. En Côte d'Ivoire, nous avons effectivement la même configuration, surtout dans l'enseignement secondaire général, où près de 76% de l'offre de formation vient du privé. Mais ce qu'il faut revoir dans tout ce qui a été dit par les auditeurs, c'est la pluralité des privés. Nous avons dans nos systèmes éducatifs trois sortes de privés. Un privé élitiste, généralement constitué des écoles françaises, représentées donc en Côte d'Ivoire, ou des écoles américaines, où vous retrouverez donc les enfants de l'élite, de la bourgeoisie, des politiciens, des ambassadeurs et autres. Vous avez l'école privée de la classe moyenne, qui est très souvent le fait des écoles confessionnelles, c'est-à-dire les catholiques, les méthodistes, dans lesquelles vous trouvez les enfants de la classe moyenne supérieure. Et enfin, ce que nous déplorons plus, c'est les écoles privées pour les enfants au bas de la pyramide sociale. Et dans ces écoles privées, vous avez une distance sociale telle que ces écoles ne permettent pas d'offrir une éducation de qualité. Aussi bien au niveau des enseignants qui y enseignent, mais au niveau même des programmes qui sont mis en place, parce que le but n'est pas tant d'enseigner, mais le but est de se faire de l'argent. Et donc, lorsqu'on présente ces formes de privatisation, il faut prendre conscience que les statistiques, même au niveau de la Côte d'Ivoire, ne prennent pas en compte un certain type d'écoles qui sont des écoles clandestines, qui elles aussi continuent de donner une formation
informelle.
Des écoles informelles, clandestines même, qui donnent des formations au rabais et surtout pour des enfants au bas de l'échelle.
Ouais.
C'est ce qui est quand même à décrier dans notre système.
Dans ce que vous venez de décrire, Zamblé Théodore Gouimbi, finalement, vous décrivez une partie des écoles privées qui, historiquement, comme les écoles confessionnelles, ne s'étaient pas créées pour faire des bénéfices, pour faire du business, mais pour plutôt... Il y avait historiquement aussi une volonté d'évangélisation, notamment, mais en tout cas, il y avait un rôle social, un rôle politique. Xavier Ponce, aujourd'hui, on observe l'émergence d'un vrai marché privé de l'éducation. Est-ce que c'est ça aussi la nouveauté ? Parce que l'école privée, elle a toujours existé, finalement.
Oui, tout à fait. Il faut bien comprendre qu'il y a de nombreuses formes de privatisation et qu'on ne parle pas, en effet, que des écoles privées qui existent depuis longtemps dans de nombreux systèmes éducatifs. mais bien d'organisations d'activités à but lucratif.
C'est
ça.
Alors, pour bien que nos auditeurs comprennent, une école à but lucratif, c'est une école qui va rogner sur les dépenses, notamment les salaires des enseignants, etc., pour dégager des bénéfices par rapport à ce que payent les parents. C'est ça qu'il faut que les familles comprennent bien.
Oui, et effectivement. C'est-à-dire que, étant donné que l'État n'est plus en capacité de pouvoir accueillir dans les établissements publics, tous les enfants demandeurs donc de formation, surtout de formation secondaire, beaucoup d'hommes d'affaires vont s'y mettre. Et en Côte d'Ivoire, par exemple, il faut savoir que l'État s'est fait donc le parent des enfants qui sont inscrits, ce que nous appelons les affectés, dans ces écoles-là. Et l'État débourse pour le secondaire premier cycle 120 000 francs CFA. Et pour les second cycle, 140 000 francs CFA. Et donc, chaque année...
Par tête d'élève ?
Oui, par tête d'élève.
Et par année.
Et par année. Et donc, chaque année, les établissements secondaires privés vont se battre pour avoir le plus d'affectés. Non pas pour faire une formation, mais pour faire le business sous le dos de l'État et surtout des parents dont les moyens ne permettent pas d'envoyer les enfants dans des écoles mieux, mais qui les laissent parce qu'ils sont affectés par l'État et paieront moins.
Oui. Donc, on voit bien comment le secteur. On comprend bien avec cet exemple, hein, Zamblé Théodore Gouimbi, comment le secteur public s'enchevêtre aussi avec le secteur privé, avec l'État qui finance une partie du secteur privé de cette façon-là. Paolo Martinez Infante, vous étiez en train de lever les yeux au ciel en disant mais c'est la même chose au Chili.
Exactement, c'est la même chose au Chili. Et notamment, il y a 65% des écoliers lycéens qui sont dans les systèmes privés d'éducation particulière subventionnés par l'État. Donc le système chilien, c'est un système qui est complètement marchandisé et c'est la marchandisation de l'éducation qui a été instaurée dans les années 80 par la dictature de Pinochet avec ce système néolibéral dans lequel tous les droits fondamentaux, notamment l'éducation et la santé, ils sont un bien marchand, le cas chilien. Et notamment aujourd'hui, après 40 ans de l'existence de ces écoles-là, et les buts lucratifs, pardon, c'est la mise. C'est ce qui fonctionne aujourd'hui au Chili. Les écoles, à tel point que les écoles, ils se débattent entre eux de qui offre la meilleure offre, en fait. Et les gens, ils ne sont plus des citoyens avec un droit d'éducation, sinon on devient des consommateurs d'éducation. On paye plus pour être éduqué, on paye pour appartenir à un système qui va, en quelque sorte, me consolider ma place de la société. Tout à l'heure, dans l'énoncé de l'émission, vous disiez que c'est un synonyme de division sociale. Au Chili, malheureusement, l'éducation aujourd'hui, tel ce système a complètement gangréné les tissus sociaux, hein, aujourd'hui devient vraiment un système profondément ancré et une reproduction d'inégalités sociales aussi, parce que les jeunes n'ont pas les moyens de se payer les meilleures écoles, notamment l'école publique, elle est complètement délaissée par l'État.
Si on n'a pas les moyens de mettre son enfant dans une école privée payante au Chili, est-ce qu'on peut recevoir néanmoins une subvention, des chèques éducation
pour... C'est un système assez particulier, c'est ce qu'on appelle les vouchers, en fait. C'est un système dans lequel...
Le voucher, comme aux États-Unis.
Exactement, mais c'est différent parce qu'en fait, au Chili, c'est l'État qui paye l'établissement par l'assiduité, par le nombre des élèves qui sont inscrits dans cet établissement-là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Que les écoles, ils se débattent entre elles pour avoir un maximum d'élèves, pour pouvoir obtenir ces subventions. Donc, c'est un complément pervers, notamment, qui, comme je disais tout à l'heure, qui creuse les inégalités, parce que les parents, ils veulent notamment une meilleure éducation pour des enfants, mais aussi, ils vont dire, c'est un système de classement social. Au Chili, il y a malheureusement cette phrase qui dit « Dis-moi dans quelle école tu es, et je te dirai qui tu es, en fait. » Et ça, dans ce système-là, dans le système éducationnel chilien, aujourd'hui, on est dans ce système dans lequel les gens, ils veulent une bonne éducation, mais ils n'ont pas les moyens de se la payer. Et en même temps, les écoles privées et particulières subventionnées, ils jouent ces jeux du marché dans lesquels ils proposent une offre marchande qui est la meilleure.
Ça veut dire qu'en investissant dans ces écoles privées, on peut gagner de l'argent aussi.
Exactement.
Grâce aux
frais
de scolarité.
Oui, tout à fait.
Xavier Ponce, ce système chilien, ce qu'on entendait aussi sur la Côte d'Ivoire, on le retrouve dans d'autres pays où ça prend des formes toujours très très différentes.
Oui, tout à fait. La question des chèques éducation a été beaucoup mise en débat aux États-Unis, mais aussi en Suède. Et oui, en effet, il y a plusieurs formes de privatisation. Là, on a évoqué beaucoup le cas d'établissements lucratifs. Mais moi, je voudrais pointer aussi, il faut bien que les auditeurs comprennent que, en fait, la privatisation va se nicher dans tous les espaces vacants qui ne sont pas occupés. Donc on a des besoins en soutien scolaire, par exemple, va se développer très fortement un marché du soutien scolaire. On a des établissements qui ont des besoins d'équipements informatiques.
Donc le soutien scolaire,
des logiciels.
Les petits cours après l'école, hein, pour qu'on soit bien d'accord sur le soutien scolaire, c'est tout ce qui est parallèle à l'école.
Oui, oui, tout à fait. Et donc, à chaque fois que vous avez des besoins qui ne peuvent être complètement pris en charge par des autorités publiques, vous avez bien évidemment des secteurs d'activité qui se développent. Et j'insiste aussi encore sur deux autres formes de privatisation, parce que là, on parle de choses qui se développent, j'ai envie de dire, autour des systèmes publics, mais il y a de la privatisation aussi dans les systèmes publics, quand, par exemple, les acteurs publics mettent en œuvre des outils ou des techniques qui sont ceux du secteur privé, comme lorsque, par exemple, ils mettent en concurrence les établissements scolaires ou qui développent de la contractualisation.
Monsieur Lecachilien.
Et puis, enfin, dernière forme, il y a aussi une forme de privatisation qui renvoie plus aux aspirations individuelles des familles, des parents, que je ne juge pas du tout dans mon propos. Hein, je suis parent moi-même. Mais on observe de plus en plus, dans certains systèmes éducatifs, des parents qui veulent chercher des solutions sur mesure à leurs enfants. Et ça les amène parfois à des solutions radicales, comme le fait de préférer l'instruction à domicile, ce qu'on peut appeler le homeschooling. Et ça les amène aussi parfois à essayer de chercher des établissements qu'on va qualifier d'alternatifs ou de différents, pour espérer répondre à l'ensemble des aspirations individuelles pour leur progéniture. Ça aussi, c'est une forme de privatisation, au sens où on attend de l'école qu'elle soit faite sur mesure pour un individu, plutôt qu'on attend qu'elle le socialise à une société complexe.
Mais l'essentiel des familles dans le monde, on le voit bien, c'est pas un choix idéologique de mettre son enfant dans l'école privée, c'est par défaut, c'est parce que ils ont l'impression que dans le secteur public, l'État ne fait plus son travail aussi et qu'ils vont mettre en péril l'avenir de leurs enfants. C'est plutôt ça qu'on a entendu, non ? Zamblé Théodore Gouimbi, en Côte d'Ivoire.
Oui, je voudrais revenir sur les propos de M. Ponce. Ce qu'il dit est essentiel. Il montre que même dans le secteur public, il y a une nouvelle forme de privatisation qui se met en place. C'est-à-dire que l'objet éducation devient un objet commercial à tous les niveaux. Vous prenez le cas en Côte d'Ivoire où les enseignants vont eux-mêmes organiser le soutien scolaire, où les enseignants vont donner des ouvrages, différents des ouvrages au programme, mais obligatoires pour que les élèves donc puissent les avoir. Donc l'école, l'éducation devient alors un vaste marché dans lequel chacun veut tirer profit. Autrement, c'est que le choix du privé n'est possible que chez les gens de la classe supérieure. Ceux du bas de l'échelle sont contraints de trouver les écoles où ils sont capables non seulement d'envoyer leurs enfants, mais au moins d'honorer les frais de scolarité. Ce n'est donc pas un choix, c'est une résignation pour ces parents pauvres. C'est ce que je voulais ajouter.
Oui, Xavier Ponce, juste une question, une réponse rapide. Le cas de la France, où tous les enseignants des écoles privées sous contrat avec l'État sont payés par le ministère de l'Éducation nationale, sont payés par l'État. C'est aussi un enchevêtrement du privé et du public, non ?
Oui, oui, tout à fait, qui est le fruit d'une histoire.
Si ce n'est qu'on n'est pas sur un secteur à but lucratif, parce que ce sont des écoles confessionnelles.
Oui, alors après, il est difficile de tenir un raisonnement sur l'ensemble du privé, parce que les situations, les établissements sont extrêmement variés, mais il est clair qu'en France, l'enseignement privé sous contrat remplit une mission de service public. Et vous allez dans certains territoires à l'ouest du pays, par exemple, où il joue un rôle essentiel dans le maillage du territoire.
Ouais. Paola Martinez-Infante, sur le Chili, quelle a été la raison pour que le privé s'immisce comme ça, habite l'espace laissé vacant par l'État ? Est-ce qu'il y avait une idéologie politique à la base, ou est-ce qu'il y avait une collusion finalement entre les hommes politiques, les intérêts économiques, et qui voyaient une façon peut-être de créer de la richesse ?
Comme je le disais tout à l'heure, en fait, ce système de privatisation, ça a été élaboré sous la dictature de Pinochet, de laquelle on impose le système néolibéral, privatise tout, Et à ce moment-là, ça devient vraiment un objet idéologique. Il faut que l'éducation soit un modèle marchand. Oui. Et c'est comme ça que c'est...
Mais marchand pour être plus efficace.
Exactement,
c'est ça,
pour être plus efficace. Hein. Et aussi pour faire passer toute l'idéologie derrière une dictature qui a derrière les droits nationaux, etc. Donc il y a quand même une idéologie qui est derrière. Et après, c'est le capital qui doit être mis en place. C'est les gens, en fait, la liberté de l'éducation devient la liberté pour toute personne d'ouvrir une école et pour qu'elle devienne après un bien marchand. Et ce qu'aujourd'hui, par exemple, je le disais tout à l'heure, il y a 65% des gens qui sont dans ces écoles-là, pour que le système il est tellement rentré dans les mœurs des gens au Chili. Et le problème aujourd'hui, c'est que l'éducation privée, comme on disait tout à l'heure, hein, il n'y a pas que les classes aisées qui peuvent aller. Évidemment, il y a des coûts mais énormissimes. Il y a 700 euros des droits d'inscription, et après, il y a 500 euros par mensualité par certaines écoles, voire les plus chères, encore plus chères, 1000 euros, 1200 euros par certaines écoles.
Par mois. Pour du lycée.
Pour du lycée, pour l'école aussi primaire. Et qu'est-ce qui se passe? La classe moyenne, comment, comme je disais tout à l'heure, il y a ces gâches d'appartenir et d'avancer la méritocratie, d'aller vers une meilleure éducation, une meilleure position sociale. La classe moyenne s'endette pour pouvoir rentrer dans ce système-là. Et le problème, c'est que l'éducation publique au Chili, elle a été complètement délaissée en détriment, justement, pour favoriser l'éducation privée. Et aujourd'hui, les gens, ils sont pas vraiment le choix. Et c'est pour ça qu'il y a un mouvement social qui est très important depuis un an. Il y a un mouvement aussi qui a été déclenché en 2006 par les étudiants qui voulaient mettre en place encore dans les débats publics l'importance de l'éducation publique pour ne pas céder, encore une fois, à ces préceptes, à ces principes de la marchandisation de l'éducation.
Alors, quelles sont les conséquences des privatisations, il faut parler au pluriel, hein, des privatisations de l'éducation dans le monde, en termes de qualité de l'éducation, en termes politique, en termes social, on va en discuter, ça sera juste après Irma.
Well, we got no choice. All the girls and boys making all that noise, 'cause they found new toys. Well, we can't salute you. Can't find a flag. If that don't suit ya, that's a drag. School's out for summer. School's out forever. School.
La sublime voix de la chanteuse camerounaise Irma qui signe ici une reprise de la chanson School's Out d'Alice Cooper. Vous êtes en direct, vous nous écoutez chez 7 milliards de voisins. On est bien sur RFI et on discute des privatisations de l'éducation concernant l'école primaire, le lycée, les collèges. Partout dans le monde, vous nous l'expliquiez, Xavier Ponce, cette lame de fond est à l'œuvre. Pas forcément un choix des familles. Les familles nous le racontaient, nous l'expliquaient dans les différents messages. Elles n'ont pas le choix souvent parce que l'école publique a été délaissée. Xavier Ponce, vous êtes universitaire et vous avez coordonné les privatisations de l'éducation dans la Revue internationale d'éducation. Paola Martinez, vous êtes journaliste chilienne et vous nous évoquiez le cas du Chili, un des systèmes les plus privatisés au monde. Hein, et puis
très bien en place depuis des années et des années. Nous sommes aussi en ligne avec Zamblé Théodore Gouimbi, universitaire, université de Korogo dans le nord de la Côte d'Ivoire, qui signe un des articles de cette revue. Je voudrais vous lire un message, puisqu'on va parler des conséquences de ces privatisations, positives et négatives. Alors évidemment, la revue signe, on va dire, des articles assez à charge contre ces privatisations, je crois qu'on l'a compris. Mais il faudra parler aussi des conséquences positives. Un message d'un auditeur, Younoussa, qui est enseignant d'histoire géo au lycée public au Mali. Il ne veut pas donner l'endroit, il ne veut pas donner la ville. Voici ce qu'il nous dit. « Mes enfants sont scolarisés dans une école privée. C'est une école proche de chez nous. Cette école était une école de référence il y a 10 ans. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Je constate que ma fille ne parle pas bien français. J'ai payé 40 000 francs CFA, c'est-à-dire 60 euros en 2019. Mais cette année, la scolarité est passée à 60 000 francs CFA, c'est-à-dire 91 euros, soi-disant pour rémunérer les profs. » Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire, Xavier Ponce ?
Oui, alors ça m'inspire un commentaire. Mais juste avant, je voudrais juste dire quand même que la revue n'est pas à charge. Hein. C'est vraiment des gens qui travaillent sur ces sujets depuis des années, oui. Qui analysent les effets. Et après, voilà, je ne suis pas là pour diaboliser
les acteurs privés. Hein,
c'est pas ma position. Mais oui, alors par rapport à la réaction de votre auditeur, c'est vrai que l'un des enjeux majeurs posés par le développement d'organisations privées de ce type, c'est parfois, j'ai envie de dire, l'opacité qu'il peut y avoir sur la façon dont certains établissements sont gérés. Dans la revue, par exemple, il y a un article très intéressant sur l'Angleterre qui montre que dans ces établissements qu'on a appelés les académies, il y a eu des sous-investissements massifs, chroniques, donc il y a eu des formes de paupérisation de certains établissements qui ont amené les entreprises privées à céder ces établissements scolaires à d'autres entreprises. Et la chercheuse qui a travaillé sur ces sujets-là pointait par exemple le fait qu'on avait très peu d'informations publiques sur comment se passaient ces opérations de cessation. Mmh. Et donc en fait, ça pointe un enjeu démocratique majeur qui est que peu importe qu'on ait recours ou pas à l'enseignement privé ou aux acteurs privés, le but n'est pas de les juger ou de les diaboliser, mais de pouvoir garder une forme de contrôle démocratique sur ce qui
mais
est fait.
Mais la privatisation ne se fait jamais en faveur des enseignants, puisqu'on sait que les enseignants sont souvent mal payés dans de nombreux pays, dans le public. Est-ce que la privatisation, ça ne peut pas se faire en faveur des enseignants, un meilleur salaire, donc ils sont plus impliqués, donc une éducation de meilleure qualité ?
Oui, c'est tout à fait possible, et c'est d'ailleurs pour ça que bon nombre d'enseignants investissent ces domaines-là, ce type d'établissement, ou même le secteur du soutien scolaire privé, oui, tout à fait. Mais après, une question importante quand même qu'il faut qu'on pose, c'est pour qui, pour quel type d'élève ? Parce que quand vous regardez les enquêtes qui sont effectuées sur, en gros, les résultats des établissements privés par rapport à ceux du public, il y a beaucoup d'enquêtes qui montrent que ces résultats peuvent être meilleurs, mais il faut comparer cela à la composition des élèves qui, justement, composent ces établissements. Et par exemple, aux États-Unis, qui est un pays dans lequel on a développé beaucoup l'échec éducation, dans lequel il y a beaucoup d'établissements privés, les travaux qui ont pu être menés montrent que quand vous comparez des établissements à population scolaire comparable, donc avec le même profil d'élèves, les établissements privés n'ont pas forcément de meilleurs résultats que les établissements publics.
Ouais. Et les parents ont reçu
c'est comprennent ça. Que c'est pas parce que c'est privé que c'est mieux, c'est pas parce que c'est public que c'est forcément moins bien. Il faut se renseigner.
Et les parents ont reçu, donc vous parliez de ces fameux chèques éducation, donc une subvention de l'argent public pour financer ces écoles privées. Zamblé Théodore Gouimbi, on parlait du niveau de la qualité de l'éducation dans ces écoles privées, on parlait de ces prix qui sont extrêmement fluctuants et qui créent sûrement du stress chez les familles quand on voit qu'on peut avoir 25 ou 30% d'augmentation en un an dans une école privée. Et des conséquences aussi sur les salaires des enseignants. Il y a tout de même des cas, j'imagine, en Côte d'Ivoire, où des enseignants du public sont mieux payés dans le privé, non, Zamblé Théodore Gouimbi ?
Donc, c'est ce que je disais d'entrée de jeu, il faut relativiser parce qu'il y a des formes de privé. Dans les privés, pour les écoles d'élite, franco-françaises ou franco-américaines, évidemment, dans ces écoles-là, les enseignants sont bien rémunérés. Mais les enseignants des collèges confessionnels catholiques ou méthodistes sont à peu près dans les mêmes fourchettes de salaire que ceux du public. Mais par contre, là où ça crée beaucoup de problèmes, c'est les privés mais les priver de mauvaise qualité, ou même les enseignants qui enseignent n'ont pas la formation pédagogique adéquate. C'est généralement des étudiants en fin de formation, en fin de cycle, qui donc s'adonnent à cette pratique. Et vous verrez dans l'article que nous avons publié que la moyenne d'ancienneté dans ces établissements privés à bas coût, c'est de 5 ans. C'est-à-dire, la plupart des enseignants n'y vont même pas pour faire carrière. Ils vont juste pour pouvoir avoir un peu d'argent en attendant de trouver mieux.
Oui.
Donc, lorsqu'on prend le cas de Inoussi, il montre qu'il faut augmenter la scolarité pour payer les enseignants.
Sur le cas du Chili, Paola Martinez Infante, est-ce que c'est sur le salaire des enseignants qu'on arrive à faire de la marge du bénéfice?
Non, pas du tout. Ça dépend des écoles.
En les payant mal
notamment, oui, ça dépend des écoles. Évidemment, les écoles des grandes élites, les écoles qui coûtent très très cher, peuvent bien payer leurs enseignants pour garantir une bonne éducation, notamment. Mais les écoles, comme je sais, particulières subventionnées, qui ont aussi des frais de scolarité très hauts, pas forcément vont payer bien leurs enseignants.
C'est le meilleur modèle économique pour faire du bénéfice.
Exactement,
pour l'école
mais
privée.
Ça fonctionne comme un système, comme une entreprise privée, dans laquelle c'est le patron, le directeur d'école, dans ces cas-là, peut-être. Il y a tout un consortium qui est derrière cet établissement, qui va finalement faire des bénéfices et mettre l'argent en bourse même d'une école, alors que ce n'est pas du tout la place de cet argent-là. Cet argent-là devait être investi, notamment pour améliorer la qualité de l'enseignement, pour améliorer l'infrastructure, etc. Ce n'est pas toujours le cas. L'argent reste dans le domaine privé de la personne, de l'impresario qui a créé cette école.
Je voudrais vous laisser écouter le message de cet auditeur qui a posté sur notre compte WhatsApp 33 7 64 45 51 41. Écoutez-le.
Bonjour, 7 milliards voisins et voisines. C'est Thierno Bar, étudiant en droit depuis Thiès. Ici au Sénégal, il y a un problème sérieux que rencontrent les parents d'élèves. Il y a 8 à 10 à 15 enfants dans ta famille. Maintenant, tous veulent être scolarisés. Et une fois à l'école, vous voyez que ces instituteurs, ils feront de telle sorte qu'ils vont se redoubler. Si l'élève se redouble 2 ans, il sera renvoyé dans les écoles privées. Et ces écoles privées appartiennent en même temps aussi à ces instituteurs qui les encadrent dans les écoles publiques. Vous voyez, donc c'est une lobby pour moi. Et c'est injuste, l'État doit mettre fin à cela. L'enfant a le droit à l'éducation. Si on a pu avoir, comme au Sénégal, 40% des enfants scolarisés, c'est grâce à l'école privée. Car l'on sait que dans les écoles publiques, ça manque presque de tout. Il n'y a pas assez de professeurs, assez d'enseignants. Il n'y a pas assez d'écoles construites. Mais dû à la pandémie de COVID-19, les enfants n'ont pas été à l'école. Et les parents n'ont pas payé les mensualités durant plus de 8 mois. Et à ce moment-ci, l'État aujourd'hui dit qu'il ne va pas subventionner ces écoles-là, il y aura des problèmes. Parce qu'à ce moment-ci, les propriétaires n'ont pas reçu les agents, ils peuvent fermer les écoles. Ce qui va se passer, c'est l'abandon massif. Et à ce moment-là, les élèves vont se retourner dans les rues. Et c'est quelque chose de très grave. C'est Thierno Bar qui vous salue.
Merci beaucoup Thierno pour ce message qui évidemment balaye de nombreux problèmes. Alors concernant l'accusation de faire redoubler sciemment des élèves à l'école publique pour qu'ensuite ils aillent dans des officines privées dirigées par ces mêmes enseignants du public qui ont ouvert des écoles privées, ça demanderait vraiment vérification. Néanmoins, il pointe du doigt, il admet que le privé a permis la scolarisation massive sur le continent africain et qu'en période de pandémie, eh bien, ça crée aussi de la fragilité parce que ceux qui ne peuvent plus payer l'école privée de leurs enfants, qu'est-ce qu'il va se passer? Je voudrais aussi lire le message de Mahamat qui est tchadien, il a 27 ans, il nous écrit que les enseignants salariés du public au Tchad désertent les cours pour aller enseigner dans le privé.
7 milliards de voisins.
Qui refait le monde avec 7 milliards de voisins.
On donne la parole maintenant à Didier Akwété qui est au téléphone avec nous. Bonjour Didier Akwété.
Bonjour Emmanuel Bastide.
Vous êtes directeur du cabinet Afrique Search. C'est vrai qu'on vous entend plus rarement sur les questions d'éducation. Vous vous intéressez de très près au secteur privé de l'éducation. Vous faites partie du comité d'orientation de la gouvernance du projet des centres d'excellence supérieure technique qui est financé par la Banque mondiale et par les États africains. Dans ce comité, vous représentez le secteur privé, donc vous réfléchissez pas mal à la question. Vous avez entendu le message de ces nombreux auditeurs assez critiques en Afrique, y compris ceux dont les enfants fréquentent les écoles privées. Est-ce que les critiques de nos invités aussi sur les conséquences de la privatisation, vous êtes d'accord ou pas, quels que soient les pays? Est-ce que le continent africain, finalement, est dans une situation à part en raison de sa démographie? Est-ce que le continent africain peut se payer le luxe de critiquer le secteur privé?
Non, mais on retrouve les mêmes tendances. Hein. Je crois que j'ai vraiment suivi avec beaucoup d'attention. Face à la massification de l'école, l'État ne peut pas répondre en réalité, parce qu'on voit bien que dans certains pays, la part du budget qui est consacrée à l'éducation peut varier entre 17 et 30%. Donc c'est déjà des gros moyens. Mais plus vous avez des enfants qui arrivent sur le marché, moins l'État en réalité a les moyens de les absorber. Et c'est en ça que le secteur privé peut apporter une réponse. Donc c'est une complémentarité. En revanche, il ne faut pas qu'il y ait une disparité en termes de qualité de ce qui enseigne dans le public et de ce qui enseigne dans le privé. Et curieusement, vous avez des profs qui enseignent dans le public, qui enseignent dans le privé, et curieusement, ils enseignent mieux dans le privé. Ce qui peut paraître étonnant, d'ailleurs, et surprenant. Donc comme l'État n'a pas les moyens d'absorber toute cette population de jeunes qui arrivent sur le marché, il faut arriver à trouver un système avec le secteur privé qui doit jouer son rôle. Dans la structure des budgets des États qu'on consacre à l'éducation, vous avez quand même une grosse majorité de ce budget qui va aux bourses, qui va au salaire, à l'entretien des infrastructures, mais très peu à l'investissement. Donc en réalité, on voit bien que l'État n'arrive pas à faire les investissements en classe, en infrastructure.
Construire des écoles, quoi.
Exactement. Si vous voyez la progression démographique, en fait, il faut construire des millions de classes chaque année. Et donc, la réflexion pourrait consister à voir comment concéder la partie infrastructure au secteur privé, où le secteur privé construit pour l'État et l'État paye un loyer, parce que l'État n'a pas les moyens de construire autant d'universités et autant de salles de classe. On l'a vu dans d'autres secteurs où l'État ne pouvait pas se permettre de construire des infrastructures. L'État donnait des concessions privées qui avaient la capacité de financer. Et l'État ensuite régule, organise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le secteur privé a les moyens de construire des salles de classe d'université, on le laisse faire. En revanche, l'État s'assure de la qualité du contenu. Donc, nous séparons le contenu, c'est-à-dire la qualité de la formation, le niveau des enseignants, la pédagogie, les diplômes, etc., nous le séparons de la partie dure, ce que j'appelle le hard. Donc ça peut constituer une première réponse pour soulager un petit peu le budget des États.
Alors j'aimerais bien avoir la réaction de nos invités, Zamblé Théodore Gouimbi en Côte d'Ivoire, sachant qu'il y a le problème des infrastructures, mais aussi le problème des enseignants, parce que souvent on a des écoles, mais il n'y a pas d'enseignants dedans, parce qu'on n'arrive pas non plus à les former, à les recruter suffisamment vite. Qu'est-ce que vous pensez de l'analyse et des propositions de Didier Akouété, Zamblé Théodore Gouimbi?
Je pense que Didier Akouété a raison. Le privé ne peut pas ne pas être considéré comme un maillon essentiel dans l'offre d'éducation. Et aujourd'hui, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, au niveau du secondaire, donc l'offre d'éducation est plus au niveau du privé. Mais la question fondamentale, ce n'est pas seulement qu'il y ait une offre d'éducation, mais qu'il faut une éducation de qualité. Il faut que le droit à l'éducation de qualité de tous les enfants soit respecté. Il peut avoir plusieurs solutions. Celle donnée par Akouété peut en être une, c'est-à-dire faire en sorte que les bâtiments appartiennent au privé, mais au moins que tous les enfants de la Côte d'Ivoire aient un socle commun de connaissances, sur un niveau commun de qualité minima pour que tous les enfants de la Côte d'Ivoire, quel que soit leur rang social, puissent avoir un même niveau minimal d'éducation. Je pense que les principes d'Abidjan qui ont été pris dans ce sens-là, militent pour le respect des droits de tous devant l'éducation.
Paola Martinez Infante,
c'est une question idéologique, parce que l'État subsidiaire, ce qui se passe au Chili aujourd'hui, et l'État il est complètement exclu en fait, de ce système. Et là, on voit bien avec les cas chiliens, depuis 40 ans d'éducation complètement privatisée, marchandisée, les gens ils veulent une éducation publique. L'État chilien a les moyens. Il ne faut pas oublier que le Chili, c'est un principal producteur de cuivre au monde. Mais ils ont les moyens d'investir dans l'éducation, mais sauf qu'ils ne veulent pas le faire.
Mais sur l'idée de séparer les infrastructures et les contenus,
c'est possible. tout à fait possible, mais en fait, il faut le vouloir, encore une fois. Il faut notamment avoir une infrastructure privée, gérée par les privés, mais il faut quand même centraliser la qualité de l'éducation à travers l'État. Et c'est pour ça que la place de l'État, elle doit être centrale là-dedans.
Xavier Ponce, un mot de conclusion. Est-ce que la démographie du continent africain confère une spécificité inévitable pour le secteur privé de l'éducation?
Oui, c'est possible. En effet, je ne suis pas un spécialiste du continent africain, mais j'entends bien la réaction des uns et des autres qu'en effet, il y a des éléments structurels majeurs. Je voudrais juste pointer deux éléments par rapport au scénario que proposait Didier Akwété. Le premier, c'est qu'il est extrêmement important que si les États ou les organismes publics nouent ce type de partenariat, qu'ils puissent avoir les compétences pour s'assurer de la qualité des prestations fournies. Et là, on observe plutôt dans les travaux des déséquilibres. L'expertise est souvent du côté des acteurs privés beaucoup plus fortement que du côté des acteurs publics. Et là, je ne parle pas que de l'Afrique. Hein. On pourrait prendre des exemples en France dans le domaine des partenariats publics-privés dans les universités, par exemple, hein, pour parler de mon quotidien professionnel. Et le deuxième point, c'est qu'on a quand même un certain nombre de travaux qui montrent que malgré le recours aux acteurs privés, la privatisation n'a pas permis finalement de résoudre des problèmes de sous-investissement chronique et des problèmes de pénurie d'enseignants, par exemple, dans certains établissements dans lesquels il est difficile de faire venir des enseignants.
Merci, ça sera le mot de la fin. Merci à vous tous, en tout cas, pour avoir participé à ce débat. C'est toujours passionnant. Il faut lire « Les privatisations de l'éducation » dans la Revue internationale d'éducation. C'est le numéro 82. Merci, Monsieur Gouimbi. Merci, Monsieur Ponce. Merci, Paola Martinez. Et merci Didier Akwété. Dans quelques instants, la chronique du psychologue Ibrahim Agirou à Dakar.
On est plus le fils de son époque que le fils de son père.
Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs.
Et nous retrouvons à présent les conseils du psychologue Ibrahim Agirou à Dakar. Bonjour Ibrahim Agirou.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes en liaison technique grâce aux moyens de RFI Mandincamp et Full Day. Vous êtes psychologue, vous collaborez à l'UNICEF. Et aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour enseigner la patience aux enfants? Vous qui avez l'habitude d'attendre que vos plantes poussent dans votre jardin, Ibrahim Agirou.
J'ai appris beaucoup de patience, Emmanuel, en effet. Disons tout d'abord, Emmanuel, il faut accompagner nos enfants en construisant avec eux des raisons véritable de patienter. On entend beaucoup de parents dire à leur enfant d'attendre ou même le reprocher d'être impatient. On entend finalement très très peu de parents, Emmanuel, expliquer et démontrer suffisamment à leurs enfants ce que c'est que patienter et surtout comment le faire. On dirait que patienter, c'est ne rien faire, c'est juste attendre. Et c'est pour cela qu'ils utilisent tant ce mot « attends, attends ». Attends, mais ils n'entendent pas la question de l'enfant en réalité.
Eh oui, et il y a bien une question pour que l'on réponde « attends ». Alors, quelle est cette question dans le fond?
L'enfant voudrait savoir « qu'est-ce que tu veux dire, toi le parent, quand tu me dis « attends ». Parce que parfois, il est vrai que c'est incompréhensible de juste dire aux enfants « attends, attends ». D'autant plus que c'est un seul ou deux mots dans le meilleur des cas qui suivent « attends ». C'est « attends Amadou »,« attends Joséphine ». D'autres fois, la question de l'enfant est « pourquoi tu veux que j'attende alors que je veux prendre, je veux manger, je veux faire ceci ou cela? Pourquoi tu veux que je diffère mon désir ou mon envie? D'ailleurs, les ados posent clairement la question aux parents. Pourquoi tu veux que j'attende? Même les jeunes enfants, Emmanuel, se posent cette question. Les parents doivent répondre à cette question.
Alors justement, on va aller vers des situations plus concrètes de la vie quotidienne. Comment on gère ces instants assez fragiles, puisque ça va assez vite? Par exemple, un enfant qui vous dit « Ah mais j'ai faim, je veux faire pipi », il faudrait lui dire « Attends, je suis en train de conduire, nous sommes dans la voiture ». Il faudrait aller au-delà du mot « attends ».
Oui, c'est ça, il faut construire. Et pour construire les raisons de patienter, il faut d'abord être un parent qui promet peu et qui tient ses promesses, Emmanuel. C'est très, très important.
Alors, si on fait peu de promesses, c'est sûr que déjà, on a plus de chances de les tenir.
Exactement, Emmanuel. L'exercice de patience repose aussi sur la confiance. On peut attendre quand on a confiance. Donc, sur la confiance dans l'avenir. et on patiente également pour quelque chose que nous sommes sûrs de pouvoir prendre. Le mot « prendre » ici est très, très important. On patiente plus facilement à la demande de quelqu'un à qui on fait confiance, car ce n'est pas facile. Il y a vraiment de la souffrance dans la patience. D'après un proverbe d'ailleurs africain, si quelqu'un vous assure le déjeuner, vous pouvez lui faire confiance s'il vous demande de patienter pour le dîner.
Oui.
Le dîner sera là. et tout ceci pose la question de savoir qui demande à l'enfant de patienter. Ensuite, une deuxième chose, Emmanuel, offrons à nos enfants les explications sans nous impatienter. Il ne faut déjà pas donner de mauvais signaux en nous impatientant nous-mêmes. Le fait même que nous prenions le temps de lui expliquer est un signe de notre patience. La meilleure façon d'enseigner la patience, c'est de l'enseigner avec patience. Donc, plutôt que de dire « attends tout court », nos explications participent, Emmanuel, à construire le raisonnement chez l'enfant, à développer ses aptitudes, ses habiletés, à patienter et à gérer ses frustrations.
Eh oui, puisque la vie ne sera qu'une somme de frustrations et de patience. Alors, est-ce qu'on peut s'entraîner à la patience comme on fait du sport ou d'autres activités régulières dans le but de...
Avec ses enfants, grâce à des activités assez simples au final, à mener ensemble, comme le jardinage, on en a beaucoup parlé. Le parent peut réaliser toutes les étapes de jardinage avec son enfant, depuis la préparation du sol en passant par le semis, le désherbage, l'arrosage, l'observation du développement des plantes jusqu'à la récolte. Vous voyez, ça fait beaucoup d'étapes à faire ensemble. Et en maîtrisant lui-même, le parent, l'ensemble de ces étapes dans sa tête, le parent peut faire des prédictions. Il peut dire à son enfant, la prochaine étape, ce sera ça. Tout ça participe à faire un pont avec le futur. Donc des prédictions qui seront assez exactes et qui prouveront à son enfant que le monde est organisé, qu'il est rationnel avec un système de cause et d'effet. Donc ce n'est pas chaotique. On dit d'ailleurs qu'il faut cultiver la patience, n'est-ce pas Emmanuel ?
Oui, et effectivement, permettre à l'enfant de mieux mesurer le temps qui passe. Alors, si je vous ai bien compris, Ibrahima Giroud, il ne faut pas faire beaucoup de promesses, il faut tenir ses promesses et il faut expliquer à ses enfants et mener des activités qui leur permettent de prédire le temps qui passe, les séquences à venir pour construire l'image et l'idée que les choses suivent un processus rationnel. C'est bien ça ?
Tout à fait, Emmanuel.
La question de la semaine à méditer en toute tranquillité, en toute patience, Ibrahima Giroud.
Comment échapper à la tentation de promettre beaucoup de choses à venir si nous ne savons pas créer du bonheur avec les choses simples qui sont déjà là ?
Merci Ibrahima Giroud pour ses questions, ses conseils. Vos chroniques sont à retrouver en podcast, parents, enfants, d'ici et d'ailleurs. Le lien est aussi sur RFI.fr, sur notre page 7 milliards de voisins. Merci à vous. Très bonne journée Ibrahima Giroud.
Au revoir Emmanuel.
Et merci à Ibrahim Ba, à la technique à Dakar. RFI Mandinkan et Full Full Day. Et
voilà. Tout le monde est voisin.
Il y a quelque chose comme l'idée de créer des passerelles entre les différentes cultures, non ?
Bonjour Emmanuel, bonjour les auditeurs.
On se sent tout petit finalement.
Très proche en même temps. Hein.
Bonjour Emmanuel.
La planète est un immense village, alors c'est bien de savoir aussi qu'il y a des gens qui sont proches de nous.
Bonjour à vous, bonjour à tous les 7 milliards de mes voisins qui se trouvent sur la planète Terre.
C'est 7 milliards de destins, 7 milliards d'histoires d'amour.
Ça m'aide moi aussi, comme beaucoup d'autres, à pénétrer le monde.
C'est 7 milliards de déceptions, c'est 7 milliards de joies, de pleurs, c'est...
L'aventure.
Oui, bonjour.
C'est une extension de la famille dans un sens où on les a au quotidien à côté de soi et c'est bien de les connaître, d'échanger avec eux.
C'est la planète, non ? On est 7 milliards sur Terre, c'est ça ? Je dis pas de bêtises ?
Oui, 7 milliards.
7 milliards de voisins. C'est fini.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
Avec Claire Mouradian, historienne.